Il est 7h40 sur France Culture et tout de suite, c'est la Fabrique médiatique.
As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
Bonjour à tous. Jeudi 9 novembre 1989, 19h09, le gouvernement est-allemand décide d'ouvrir les frontières avec l'Ouest. Le fameux rideau de fer se déchire. À Berlin, le mur s'écroule symboliquement. Deux heures plus tard, regardez, c'est l'histoire. H majuscule.
Quand les événements prennent une telle dimension, ce n'est plus de l'actualité, c'est de l'histoire. Ce qui s'est passé la nuit dernière à Berlin est historique.
Vous ne pouvez pas vous imaginer pour un
an de l'Ouest. Ah,
Est et Ouest n'existent plus vraiment. Cela s'est bien mixé. Et la première question quand on rencontre quelqu'un, ce n'est plus « tu viens de l'Est ou de l'Ouest ?»
La chute du mur a signé la fin de la RDA. Un régime a disparu, deux Allemagnes se sont réunifiées. Les Allemands de l'Est ont découvert la société de consommation. Mais derrière cette vitrine, le cœur de l'ex-Allemagne de l'Est bat toujours aussi fort.
Dans la tête, il y a toujours une séparation.
On vient tous d'Allemagne de l'Est et on veut y retourner.
En ce 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, comment parle-t-on de cet événement en Allemagne? Quelle histoire, avec cette fois un H minuscule, racontent les médias? Est-ce que l'Est et l'Ouest ont vraiment disparu ou bien reste-t-il quelque chose de cette partition du pays que les journalistes reflèteraient? Comment aborde-t-on la commémoration de ce 30e anniversaire dans les journaux? L'Allemagne, 30 ans après, vue par les médias, c'est notre sujet de Fabrique médiatique. Ce matin, en compagnie d'Anissa El-Jabri, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes reporter au service international de RFI et vous revenez de Thuringe. On y reviendra où se tenaient des élections régionales il y a quelques semaines. Et puis avec nous par téléphone depuis Berlin, Albrecht Meyer. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service politique du quotidien régional berlinois, le Tagesspiegel, pardon pour mon très mauvais accent allemand. Je vais commencer avec vous justement, Albrecht Meyer, puisque vous êtes à Berlin. De façon générale, comment se prépare-t-on à Berlin à parler de cette journée ?
En fait, nous, on va monter aujourd'hui une action spéciale avec le Berliner Zeitung. Le Berliner Zeitung, ça c'est un journal plutôt ancré dans l'est de Berlin. Et nous, le Tagesspiegel, on est plutôt ancré toujours dans l'ouest de Berlin. De toute façon, on va monter une action commune. On va faire rouler des trains spéciaux entre les stations de Ruhleben, qui se trouve à l'ouest de Berlin, et Pankow, dans l'est. Et là, on va faire monter les politiciens comme Wolfgang Thierse. C'est un politicien de l'ex-RDA qui a fait une carrière en Allemagne réunifiée. Il était président du Bundestag. Et on va donner l'occasion, dans ce train roulant spécial, à nos lecteurs de parler avec les politiciens comme lui et de parler avec une partie de la rédaction qui va être présente dans le train aussi. Et tout ça, on va rapporter sur un live blog aussi. Et aujourd'hui, on a fait une édition spéciale dans le Tagesspiegel de 48 pages, justement, qui parle de la réunification et aussi des choses qui sont pas trop bien passées. Parce que, pour répondre à votre question, comment en général on décrit cette commémoration, oui, effectivement, on voit surtout à la télévision, dans les documentaires, les mêmes images incontournables des Trabant, des voitures de l'Allemagne de l'Est qui sont filés dans cette fameuse nuit du 9 novembre vers l'Ouest, et les gens en pleurent, en fait les gens sur le mur, etc. Mais aujourd'hui, il y a moins d'euphorie. On se pose plutôt la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux avec la réunification?
Les clichés sont tenaces, hein, vous avez l'air de le dire, et puis certains en souffrent. On entend d'ailleurs dans différents reportages, et là qui sont diffusés sur nos antennes françaises, que les Allemands de l'Est souffrent d'un certain nombre de clichés sur l'Est, de cette vision de l'histoire qui a été présentée. Mais justement, Anissa El-Jabri, vous revenez de l'Est de l'Allemagne, puisque vous étiez en Thuringe, ce land dans l'Est du pays où vous étiez pour couvrir les élections. élections régionales. Quelles ont été les choses vues, les choses entendues? Est-ce que, par exemple, justement, ces clichés sur la vie à l'Est, vous les avez entendus et vus, vous?
Eh bien, souvent, les gens qui ont vécu à l'Est ont d'abord du mal à s'en revendiquer. On sent qu'il y a un rapport qui est très, très, très ambivalent. À la fois, il y a le sentiment parfois d'une perte et d'une dépossession de beaucoup de choses, de beaucoup de repères, de beaucoup d'emplois. J'imagine qu'on va en reparler. Et en même temps, la volonté de ne pas apparaître comme les perdants de l'histoire, comme des gens qui sont un petit peu amers. Donc, il y a cette forme d'ambivalence, la volonté de quand même pouvoir rappeler que il y a des choses qui fonctionnent bien à l'Est. Au fond, tout ça reflète une forme de fierté nationale blessée. J'ai envie de dire la volonté que d'être regardé de manière plus positive qu'on ne peut l'être. Quelqu'un me racontait notamment, ce que moi je n'avais pas entendu tout de suite, me disait, bah pendant que vous êtes sur les routes en Thuringe, écoutez la radio locale. Elle a demandé cette fois-ci, pour les 30 ans, aux habitants de Thuringe de renvoyer des témoignages, alors je ne dirais pas des témoignages positifs de la vie sous l'ex-RDA, parce que bien sûr, personne ne vient dire que, en tout cas en Thuringe, officiellement que c'était une vie joyeuse hein, sous un régime autoritaire, sous une dictature, mais là aussi demander de rappeler des souvenirs de vie quotidienne. Tout ce qui aujourd'hui aux gens rappelle qu'ils ont été tout de même pendant 30 ans socialisés avec un système, avec des chansons, avec des clubs, avec c'était comme une vie très très encadrée, et aussi c'est très important pour tout le monde à ce moment-là.
Vous dites, Anissa Al-Jabri, personne ne rappelle ou personne ne dit aujourd'hui qu'on était heureux sous la RDA, mais il y a quand même la chancelière Angela Merkel qui, on le rappelle, hein, vient de RDA, qui dans une interview fleuve au Spiegel a dit, fondamentalement dans le regard que l'on porte sur la RDA, il y a quelque chose que les Allemands de l'Ouest comprennent difficilement, qu'on pouvait aussi avoir une vie réussie dans une dictature. Et on a le sentiment, là je vais m'adresser à Albrecht Meyer, on a le sentiment que à l'Est aujourd'hui, on a besoin de cette revendication pour, comme si on voulait exister en disant, mais finalement, vous nous avez enlevé sentiment de dépossession, vous nous avez enlevé notre histoire en 1989 et dans les quelques années qui ont suivi, on voudrait aujourd'hui récupérer cette histoire. Vous avez ce sentiment-là aussi, Albrecht Meyer?
Oui, aujourd'hui, il y a quand même un grand travail de réflexion sur est-ce que l'Ouest a vraiment compris l'Est, et effectivement, non seulement c'est l'industrie de l'Est de l'Allemagne qui s'est quasiment écroulée après la chute du mur, mais aussi il y a le fait que les bons côtés de la RDA c'était pas mis dans l'Allemagne réunifiée. Par exemple, en Allemagne de l'Est, on avait quand même beaucoup plus de possibilités qu'en Allemagne de l'Ouest de y travailler et d'avoir une vie de famille, par exemple. Et ça, c'est quelque chose où il y avait un système de crèches beaucoup plus important en Allemagne de l'Est comme en Allemagne de l'Ouest. Et ça, ce sont des choses qui n'étaient pas du tout prises en compte après la réunification. Les Allemands de l'Est, ils n'avaient que à s'adapter, que à rattraper. Et en Allemagne de l'Ouest, on ne s'est pas trop intéressé à eux. Hein. C'est, de toute façon, ils viennent chez nous et l'Allemagne est réunifiée. Mais les biographies brisées des fois, ou souvent brisées, ça n'a pas trop intéressé les Allemands de l'Ouest. Et c'est que maintenant, surtout, je crois, on va en revenir avec l'essor du parti populiste allemand, la AfD, qui cherche à justement exploiter ce sentiment, qu'on s'est fait ce travail de réflexion, est-ce qu'on a vraiment compris qu'est-ce que ça voudrait dire la réunification pour les gens qui se sont trouvés en chômage et qui avaient une vie très très difficile, qui avaient et s'adapter à la réunification et à la mondialisation qui s'est amplifiée à cette époque-là en même temps. Et ça, c'est, je crois, on n'est que au début de ce travail de réflexion.
Anissa Al-Jabri, justement, puisque vous étiez en Thuringe, où l'AFD, le parti d'extrême droite, a doublé son score aux élections, vous avez vu effectivement un parti qui jouait sur cette fierté nationale blessée dont vous parliez?
Oui, justement, et qui utilise, qui a même carrément, c'était le cas pour toute sa campagne électorale cet automne, hein, parce que la Thuringe, c'était la troisième élection locale hein, dans ce land, mais la troisième de l'automne, puisqu'il y en a eu deux précédemment. À chaque fois, on a eu le même mot d'ordre, d'utiliser tous ces slogans de l'année 89, dite révolution pacifique, c'est effectivement parce que le sang n'a pas coulé, ou l'année du tournant. L'AFD dit qu'il faut achever cette révolution pacifique. Alors ça lui permet deux choses. Ça lui permet effectivement d'appuyer sur cette fameuse blessure, ce sentiment d'être des citoyens de seconde zone, des gens qui n'ont pas accès aux postes à responsabilité, qui n'ont pas les mêmes salaires, pas le même pouvoir d'achat. Et en même temps de dire, on vous rend le pouvoir, puisque vous allez pouvoir continuer ce que vous avez déjà fait. Et puis ce subvertissement du langage, ça permet aussi de désigner l'Allemagne de l'Ouest, de le placer au même niveau que le régime de la RDA finissante, de dire que c'est en réalité une dictature, ce qui permet aussi d'autoriser et de se dire qu'après tout, tout est possible et que bien sûr, on peut voter AfD. Je rappelle que le candidat qui a doublé son score en Thuringe, c'est pas n'importe qui. C'est un candidat qui était considéré à l'intérieur de l'AfD déjà comme quelqu'un de très radical, qui pouvait être gênant pour la vitrine du parti, ce qui veut dire que au prochain congrès, très probablement, il va pouvoir reprendre davantage d'influence. C'est un homme quand on a essayé, des journalistes allemands l'ont fait cet automne, ont cité certaines de ses phrases et l'ont mise en comparaison avec d'autres phrases qui ont pu être utilisées, et je sais que c'est un point Goodwin, mais tout de même, sous le régime d'Hitler, eh bien, des gens de son parti n'ont pas réussi à faire la différence. C'est pour vous dire.
Albrecht Meyer, peut-être un mot sur ce positionnement du parti d'extrême droite, de l'AFD?
Oui, bien sûr. En fait, c'est effrayant que en Thuringe, l'AFD a fait plus que 23% encore une fois. Et les trois dernières élections en Allemagne de l'Est, l'AFD a fait autour de 25% dans la moyenne. Hein. On a tendance à de toute façon dire l'AFD, c'est plutôt un phénomène est-allemande. Et c'est quelque chose qui divise aujourd'hui, encore une fois, l'Allemagne de l'Ouest.
L'Allemagne de l'Est. Mais est-ce qu'il y a des débats?
Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Que quand même, il y a des recherches qui montrent que en Allemagne de l'Est ou en Pologne, la démocratie en soi est beaucoup plus ancrée qu'il y a 10 ans. Donc la tendance est quand même la bonne.
En France, il y a eu un débat lancé après qu'un article du Monde diplomatique a titré « Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion ». Albrecht Meyer, est-ce que vous avez des débats de cet ordre-là dans les médias allemands? J'ai lu qu'en cause, hein, notamment, il y avait la fameuse Treuhand, c'est-à-dire cette agence publique qui a procédé à la restructuration de l'économie est-allemande, qui est présentée parfois comme l'institution qui a mis la RDA sur la paille. Manifestement, il y a en tous les cas un débat dans les médias autour de cette Treuhand. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Oui, en fait, à mon avis, on peut pas du tout parler d'une annexion parce que justement, pendant la chute du mur, les Allemands de l'Est, leur slogan, c'était « Wir sind das Volk ». Nous, on est le peuple. Et après, ça s'est transformé « Wir sind ein Volk ». On veut être réunifié. Donc, c'était la volonté des Allemands de l'Est d'être réunifiés avec les Allemands de l'Ouest quand même. Donc, on peut pas du tout parler d'une annexion. Hein. Ça, c'est faux. Mais c'est ce qui est vrai, effectivement. Et on parle de ça, justement, dans notre édition spéciale aujourd'hui. Il y a beaucoup des biographies qui montrent aussi que c'était un choc fondamental économique avec lequel les gens de l'Est étaient confrontés. Par exemple, il y avait aujourd'hui un témoignage d'un ancien chef d'une grande entreprise pharmaceutique qui s'est écroulé après la chute du mur. Et lui a cherché à monter lui-même une entreprise, son propre entreprise pharmaceutique, qui existe d'ailleurs aujourd'hui même. Mais il se rendait compte que c'est quand même les entreprises de l'Allemagne c'est l'Ouest qui a pris tout le marché de l'Est. Ça, c'est plutôt une expérience qui était une déception. Je parlerais plutôt d'une déception qui, après la première euphorie de la chute du mur, qui a pris place dans le cœur de beaucoup des Allemands de l'Est. Et ça, c'est une frustration qui existe toujours aujourd'hui. Et chez certains Allemands de l'Est, il y a cette sentiment de vengeance, de vouloir se venger sur ces événements, et je crois que ça, c'est pas bien. Il faut plutôt, pour les Allemands de l'Est, montre plus de confiance en soi aujourd'hui.
Anis Al-Jabri.
Alors sur la Troyande, c'est effectivement le sujet de moi dont on m'a le plus parlé spontanément quand j'étais en reportage en Thuringe, avec des mots très durs en me disant c'est le fossoyeur de l'industrie de l'ex-RDA. Alors c'est très très juste, les gens qui étaient aux manettes à ce moment-là, et j'ai notamment interviewé le porte-parole du gouvernement de transition, vous savez le gouvernement librement élu avant la réunification. Et quand on pose la question de qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, il me répond, c'est la question à laquelle je ne cesse de répondre. Il me rappelle justement ce que disait Brechmeyer, c'est qu'il y avait une pression très très forte, il y avait une demande de réunification, les gens demandaient le marque. Il me disait, quand on s'est retrouvé aux commandes, on avait des décisions importantes à prendre tous les jours, mais des dizaines, et on avait cette pression de ces Allemands de l'Est, malgré la chute du mur, malgré la liberté de circulation, qui tous les mois partaient à l'Ouest en se disant qu'ils pourraient ne pas revenir. Et il s'était dit à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on fait? On va se retrouver avec des régions complètement vides. Il pensait avoir 3 ans devant eux, et ça a pris 6 mois. C'est pour vous dire la rapidité. Donc après, quand la Treuhand se met en place, effectivement, les choses vont vite, souvent trop vite, me dit-il lui-même. Oui, il y a des privatisations qui ont été mal faites. Oui, il y a eu une forme de clientélisme. Oui, parfois tout ça a été fait au profit de l'Ouest. L'essentiel des sièges des grandes entreprises allemandes aujourd'hui sont à l'Ouest. Les Allemands de l'Est le voient. Il me dit, je ne sais pas très bien ce qu'on aurait pu faire d'autre. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas d'autres solutions. En réalité, je ne suis pas certain, me dit-on, pas de manière aussi affirmative, qu'il y ait une autre alternative. Et enfin, il y a une autre chose qui alimente ce sentiment d'avoir été dépossédé, c'est que dans les années 90, que fait-on? On va dans la tête des administrations, des universités, etc. Et on organise ce qu'on appelle des entretiens, en quelque sorte, avec toutes ces personnes qui avaient été nommées par le régime. L'idée, c'est d'un petit peu de voir, en gros, si un enseignant était là parce qu'il était compétent, ou un petit peu pour faire la police politique, ou bon. Bref, il se trouve que, et c'est assez classique dans ce type de transition, énormément de dirigeants d'administration, sont relevés de leurs fonctions. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il n'y a pas forcément ces élites, donc ce sont les Allemands de l'Ouest qui viennent. Pour beaucoup d'universitaires, par exemple, on me l'a raconté, c'est formidable. C'est une opportunité à laquelle ils n'auraient pas forcément eu accès tout de suite. Le fait est que aujourd'hui encore, ce sont ces gens-là qui dirigent les entreprises, les administrations.
Donc le son qu'on entendait dans le petit montage réalisé tout à l'heure par Milena Elig, tu viens de l'Est ou de l'Ouest? Quand on disait la question n'est plus tu viens de l'Est ou de l'Ouest, manifestement la question est encore valable. Dernière question, je vous demande d'y répondre de façon très courte, Albrecht Meyer. On est au 30e anniversaire. Est-ce que vous voyez, du point de vue de tous ces débats dont on a parlé là, une vraie différence avec le 20e anniversaire? Il y a 10 ans, il y avait déjà ces débats où là on a franchi un cap?
Non, c'est vraiment différent d'il y a 10 ans. Justement, tous ces débats sur le Treuhand, la transition économique et comment ça se traduit aujourd'hui dans le paysage politique de l'Allemagne et de l'Est, c'était pas encore là il y a 10 ans, mais il faut aussi dire, il y a 10 ans, le AfD n'était pas encore là non plus.
Merci beaucoup, Albrecht Meyer, journaliste au service politique du quotidien régional berlinois Tagesspiegel, et merci à vous, Anissa Al-Jabri, reporter au service international de RFI.